Bonjour à tous et bienvenue sur le 9e épisode de C'est qui, c'est quoi. Aujourd'hui, je reçois Aurore Agoni, qui est coach SGX. Donc, c'est une formation que prodigue l'organisation Spartan pour la course à obstacles. Mais elle est, comme elle dit elle-même, avant tout athlète. Donc, elle nous parle un petit peu de ça, de la course à obstacles, de l'OCR de Spartan et aussi de l'association slash team slash parcours d'entraînement qu'elle opère, qui s'appelle Spartcamp, où on peut aller comme ça s'entraîner et apprendre comment passer des obstacles, parce que c'est pas toujours facile de trouver des endroits qui proposent les mêmes obstacles que ce qu'on fait dans l'OCR. Et donc elle a un petit camp comme ça d'entraînement où elle prodigue des formations, entre autres les week-ends et puis même dans la semaine, etc. Donc voilà, je vous laisse sans plus tarder découvrir Aurore Agoni. 1, 2, 3, go! Salut Aurore, ça va bien?
Salut Arnaud, je vais très très bien, merci de ton invitation.
Bah de rien, puis merci d'être venu parce que j'étais super occupé, c'était compliqué de caler une date et un horaire pour ça parce que t'es super occupé. Donc merci d'avoir pris le temps parce que ça faisait longtemps que je te suivais sur Instagram et autres et je suis vraiment bien content que tu puisses venir. Alors tu es athlète de course d'obstacles, tu es surtout coach SGX, tu vas nous expliquer ce que c'est, et aussi tu t'occupes de l'organisation, enfin de faire fonctionner ton organisation, association, course, groupe, un peu un mélange de tout ça qui s'appelle Spartcamp, donc on va parler de tout ça. Mais alors, pour les gens qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la course à obstacles ou la course d'obstacles, je sais jamais trop comment on dit en bon français, et aussi ce que c'est qu'une coach SGX?
Alors tout d'abord, effectivement, donc moi je suis athlète avant d'être coach. J'ai découvert la course à obstacles il y a maintenant 5 ans, en 2016, tout naturellement par le biais d'un coach SGX. Donc au début la course à obstacles, donc j'ai découvert vraiment au début les Spartan Races. La course à obstacles, en fait, c'est une course d'une certaine distance sur lesquelles on doit passer des obstacles. Ça peut être des palissades, ramper dans la boue, toutes sortes d'obstacles qui vous permettent de vous dépasser, de vous surpasser. Quand j'ai découvert la course obstacle pour la première fois, je me suis dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce sport de dingue ?» Et naturellement, j'en suis tombée complètement amoureuse. Et avec le temps, j'ai réussi à vraiment, parce que je suis coach bootcamp à la base, et j'ai réussi à me spécialiser, me dire non, ce que je veux réellement faire, c'est devenir coach Spartan. Et Spartan, qui est vraiment l'organisation qui a une organisation américaine, qui a lancé les premières courses d'obstacles, et bien je me suis dit pourquoi pas passer ce diplôme de coach. C'était les seuls à proposer ça. Bon, qu'est-ce qu'un coach Spartan?
Alors, avant de parler sur le coach Spartan, tu faisais quoi comme sport avant de te mettre à la course à obstacles? Parce que je crois que t'as un sacré passif d'athlète, en fait, déjà même à l'avant, quoi.
Alors, avant toute chose, moi, j'ai toujours fait du sport. Toute ma vie. D'accord? Donc, j'ai commencé par l'athlétisme dès l'âge de mes 9 ans. À peu près 7-8 ans. Voilà. Après, à l'âge de mes 17 ans, j'ai décidé de dire que c'était vraiment trop compétition, j'avais envie de voyager, donc j'ai décidé d'arrêter l'athlétisme et de partir sur un sport beaucoup plus individuel qui est la plongée sous-marine. Ouais, donc, grâce à la plongée sous-marine, je me suis formée en tant que professionnelle pour pouvoir voyager et continuer à plonger.
Alors attends, en athlétisme, tu faisais quel puisque c'est vaste l'athlétisme, tu faisais quelle discipline?
J'ai fait une course de fond.
D'accord.
Donc j'aimais bien les cross country et je faisais un petit peu également de saut en longueur et piste. Mais j'étais plus une course de fond à la base.
D'endurance. Donc tu faisais des semis, des marathons, des 10K, c'était quoi ta distance?
J'étais jeune. J'ai fait jusqu'à 10 km,
D'accord. Ah oui, parce que d'accord.
Je suis à la frontière suisse, donc je suis championne en Suisse. Donc c'était vraiment une belle période de ma vie étant jeune. Et en fait, je pense que la base, elle est venue d'ici. Et après, j'ai plus vraiment couru. Je suis vraiment passée à un autre sport. Donc j'ai toujours bougé, beaucoup de yoga, beaucoup de randonnée, beaucoup de sport de montagne, de sport d'eau. Je suis une touche à tout, en fait. Je suis une passionnée de sport.
Mais c'est bien. Ouais. C'est bien parce que c'est complet et puis du coup ton corps il est pas optimisé spécifiquement pour un truc particulier donc ouais. c'est ça qui est on en reviendra au niveau de l'entraînement des courses d'obstacles, c'est pour ça que j'aime bien personnellement, c'est que c'est très très complet. Et alors pour la plongée, tu voyageais donc t'étais professionnel, tu faisais quoi, t'allais chasser des trésors dans des épaves ou tu faisais quoi?
Moi je vendais du rêve aux gens. À l'époque j'étais pas pédagogue.
Okay, d'accord.
J'ai refusé. J'ai tellement souffert dans ma formation de plongeur professionnel. Mon instructeur m'a tellement fait souffrir je ne voulais pas être instructeur. Donc, j'ai décidé de rester un simple dive master et d'être guide de plongée, en fait, et d'amener les plongeurs certifiés en fun dive. Et je les filmais. J'étais caméraman sous-marin.
D'accord. Caméra woman,
voilà. Et en fait, moi, je vendais du reste que à l'époque, je vivais en Thaïlande. Donc, c'était l'époque où le film The Beach était sorti avec Leonardo DiCaprio, où je ramenais mes plongeurs sur cette fameuse plage, j'en vendais du rêve. Et ça, je savais très bien le faire, en fait.
D'accord. Donc, t'étais accompagnatrice. Tu faisais pas les initiations, tu sais, les premières,
DSD, non, je faisais pas les Discovery Scuba. Mais par contre, tu étais certifié, je t'amenais en fond de dive avec
d'accord.
moi.
D'accord, donc en fait, t'étais comme on peut prendre un guide de montagne quand on fait de la rando, on veut trouver un guide, tu faisais un peu pareil. Mais
un guide de palanquée.
D'accord, donc tu connais les bons coins, les bons trucs pour amener les gens pour qu'ils se fassent dire. C'est cool, ça.
Les petites choses sous l'eau que les gens ne voient pas.
Et t'as fait ça combien de temps?
Pendant presque 10 ans.
Ah, 10 ans.
Ouais, j'avais 1600 plongées. Aujourd'hui, wow. Voilà.
Ah oui, j'ai vu en plus récemment, tu avais plongé dans un lac, non, en Suisse ou quelque chose comme ça pour.
Plonger sous glace.
Ouais, ça va être chouette ça.
J'adore. Je ne l'avais jamais fait de ma vie. C'est une belle surprise. Et puis, les sensations, déjà, de respirer à nouveau dans un détendeur, parce qu'aujourd'hui, je suis moins axée plongée, plus freediving, plus après. Ouais. Renfiler comme ça le détendeur et puis être sous la glace, c'est juste impressionnant.
Ouais, on a tous les images en tête quand tu es sous la glace, tu vois la lumière un peu tamisée du dessus et tout. Et c'est quoi il y a des spécificités techniques quand tu, à part bien sûr t'équiper pour pas avoir froid et tout, mais
on est en combinaison étanche en fait.
Ouais.
Donc enfiler une combinaison étanche, déjà c'est beaucoup de préparation, énormément de préparation. Non, il n'y a pas besoin d'avoir de spécificité pour plonger vraiment sous la glace. Un néophyte peut plonger, un capitaine peut plonger, parce qu'on est à 1 mètre sous l'eau, en fait. Juste ne pas avoir cette sensation de ne pas être claustrophobe.
C'est la
prérogative, je pense.
Et du coup, tu fais de l'apnée aussi, donc ça c'est pareil dans des lacs ou aussi à la mer, et pourquoi t'es passé sur l'apnée?
Exactement, pourquoi l'apnée? Parce que j'ai fait aussi du skydiving. Et avec le temps, je m'ennuie un petit peu 45 minutes sous l'eau, ça me paraît un petit peu long. Surtout si on l'a. Mais j'avais envie d'avoir d'autres sensations, d'écouter la vie sous l'eau, en fait. Parce que on entend ces bulles, on entend ces ventilations. Mais quand on est en apnée, on entend vraiment la vie. Et on est plus respectueux aussi de la nature. Et j'aime ce silence, en fait. Non, j'aime ce bruit sous l'eau, en apnée. Et je suis plus attirée maintenant par des plongées apnées. Donc récemment, je suis partie au Mexique. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce plongeur, Mathieu, qui m'a fait plonger en cénote.
C'est quoi?
Des cénotes, en fait, ce sont des trous naturels qui sont dans la roche, en fait. On peut dire que c'est des trous de météorites qui ont été qui ont fait des trous naturels dans tout le Yucatan au Mexique.
D'accord.
Et là, on a des trous de 50, 60 et 70 mètres de profondeur.
De profondeur. Waouh. Ouais. Wow.
Bon, je suis pas si profond, je te rassure.
Non, on espère en apnée. Ouais, t'es pas Jacques Mayol non plus, mais.
Pas encore. Et du coup, donc j'ai eu la chance d'avoir cet instructeur qui m'a formé le temps d'une journée en line coaching. Voilà, j'ai envie de devenir un bon apnéiste.
D'accord. Ouais, du coup, l'entraînement, c'est quoi pour l'apnée? C'est pas juste dans ta baignoire te retenir de respirer. J'imagine que j'imagine développer ton VO2 max et tout ça, ton cardio.
Relaxation, c'est beaucoup de relaxation, en fait. Donc, un sport qui est très bien lié, c'est le yoga.
Ouais.
Donc beaucoup de relaxation, travailler sa ventilation, et après beaucoup de techniques au niveau de, du placement du corps. Je me suis rendu compte, il me l'a fait remarquer, il m'a dit, ton palmage me rend malade. Alors que j'ai un très beau palmage en plongée, mais ton palmage est une catastrophe. J'ai envie de...
Parce que c'est pas la même façon avec des bouteilles que sans, du coup.
Je me suis rendu compte que pas du tout, c'est hyper technique le freediving en fait.
Parce qu'en fait, faut que t'optimises peut-être plus tes mouvements pour économiser un peu ton oxygène,
ouais,
des choses comme ça.
En fait, il m'a dit, t'as de la chance, tu fais du crossfit, donc du coup, t'as de la cuisse, t'as de la force dans les jambes, donc du coup, en trois coups de palme, tu descends très vite. Ouais. Et tu vas rester quand même moins longtemps parce que tu utilises beaucoup d'énergie. Du coup, je dois apprendre tout ça, vraiment.
Moi, j'aimais beaucoup la plongée et malheureusement, je peux plus en faire parce que j'ai eu des perforations du tympan à répétition. Enfin, depuis que j'étais petit. Mais en fait, un jour, je faisais de la plongée à la Réunion.
Oui.
Et d'un seul coup, je décompresse, tu sais, en bouchant le nez. Et là, des petites bulles d'air qui sortent de l'oreille.
Ouais.
Et au début, j'avais pas compris. J'ai dit bon, je vais finir la plongée. Puis au bout de trois jours, j'entendais toujours de l'eau et ils me disent bah non, en fait, t'as le tympan qui est perforé. Puis dans la mer, ils aiment pas parce que du coup, t'as plein de bactéries dans l'eau et tout. Donc quand ça rentre, donc j'ai dû aller à l'hôpital. Ils ont regardé, ils m'ont dit ah ouais, il y a 2 mm. On voit carrément les osselets du tympan et tout. Et donc maintenant, j'ai une cicatrice et j'ai zéro flexibilité en fait de la membrane du tympan. Alors c'est marrant, c'est que pour la pression positive. Donc si je descends. Mais je peux même pas descendre à 2 mètres, c'est-à-dire que ça commence déjà à me faire super mal. Voilà. Par contre, quand c'est négatif dans l'avion, ça se bouge même plus. Par contre, donc c'est assez bizarre. Par contre, si j'ai des problèmes ORL, genre un petit rhume, ça m'est déjà arrivé 2 fois en avion que ça craque dans l'avion.
Oui.
Et tu sens, t'as, pendant 20 minutes, tu sens ça pousse, t'as des sueurs froides de douleur, et d'un seul coup, t'entends cric, 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 et
là, c'est.
Ouais, et ça, putain. Et du coup, c'est ouais, parce que la plongée, j'aimais bien parce que t'as vachement lié à la natation aussi. Donc, c'est un peu comme la course à obstacles où tu te muscles en même temps que tu t'entraînes à l'endurance, etc. Donc, c'est quelque chose de très complet. On voit bien les nageurs, les corps qu'ils ont, tu sais, vraiment bien taillés, etc. Ouais. Tu vois que c'est hyper optimum. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, moi, j'étais passé sur la course à pied, et du coup, la course à obstacles. OK.
C'est triste pour toi. L'apnée, en fait.
Bah non, même pas. Ouais, j'aimais bien l'apnée aussi.
T'es coupé du monde sous-marin.
Exactement. C'est dommage parce que j'aimais bien aussi le côté comme ça, très pareil, très. C'est à la fois calme et frénétique en fait, parce que c'est calme parce que c'est sous l'eau, c'est pas ton élément, mais t'es en un genre d'apesanteur quand même, tu vois, t'es bien. Et en même temps, quand tu commences à regarder ce qu'il y a en dessous, ça grouille de vie. Si tu connais les bons coins, tu peux aller voir des plantes et des poissons fantastiques, etc. Et c'est vrai que c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ok, alors on va revenir à la course à obstacles. Donc du coup, t'as fait ça 10 ans, puis après t'as arrêté, donc t'es retourné habiter en Haute-Savoie.
En 10 ans de voyage, et après je suis rentré donc en Europe. En fait, l'être humain étant un éternel insatisfait, j'aurais pu plonger encore 20 ans et rester. Mon dernier pays, c'était l'Égypte, pendant 2-3 ans. J'aurais pu rester et faire ma life là-bas. Hein. Mais j'ai voulu construire une vie, avoir un enfant, me valoir professionnellement. Je voulais voir ce que je valais, quoi, parce que le plongeur, ça va, il y a son diplôme, tu plonges. Mais quand même, je voulais me valoir. Et je suis rentrée donc. En France, en frontière suisse, la seule condition, c'était d'habiter près de la frontière.
Ah, pourquoi?
Parce que ma famille habite près de la frontière.
Ah, t'es d'origine suisse à la base, c'est ça?
Je suis française.
Française?
Trop habituée, tu sais, à travailler en Suisse.
Ouais, je comprends. Et puis, c'est une région qui est super chouette. C'est super, enfin, c'est magnifique, quoi. Surtout quand t'aimes la randonnée, la course à.
On est en centre de l'Europe, on fait tout ça, la montagne, le lac. Et puis, j'ai dit, il est hors de question que je rentre en Europe si je ne travaille pas en Suisse, en fait.
Voilà. D'accord.
Je sais que la vie est dure en France. Donc, du coup, la condition également, c'était de rentrer, mais de continuer toujours autant à voyager, car c'est ma soupape de sécurité, en fait. Si je ne voyage pas, eh bien, ça en va de ma santé, ma santé mentale. Hein.
T'as un esprit, je pense, très, très actif. Ça se sent quand tu parles ou quand on voit tes vidéos, et là tu te parles du voyage, t'as besoin de t'occuper le cerveau, j'ai l'impression, découvrir des nouveaux trucs. Je pense que t'as un cerveau très très qui est très affamé d'activité, de changement, j'ai l'impression. Mais du coup c'est marrant parce qu'à côté de ça tu fais du yoga et des trucs pour te calmer, etc. Donc c'est intéressant.
Exactement, je suis le yin et le yang, en fait.
Ouais clairement, d'ailleurs ton t-shirt est blanc et noir.
C'est ça. D'ailleurs, dans ma pratique du yoga, je me suis formée en qualité de coach d'enseignement de Yin Yoga. Pas de, mais voilà. Parce que notre discipline, la course obstacle, est le Yang.
Ah ouais, bah oui, mais j'étais arrivé à la même conclusion. Moi j'utilisais une application pour faire du yoga parce que c'était juste plus simple pour moi, mais c'est pareil, l'application te permet de choisir plusieurs pratiques différentes et j'avais fini par arriver sur le yin aussi yoga parce que t'as vraiment pour de l'assouplissement en fait, tout simplement. Oui. ça pour gagner de la mobilité, ça aide bien. Donc ouais, toi tu donnes des cours aussi de yoga à distance?
En vrai.
Je me suis
formée pendant le confinement.
D'accord, bah ouais, c'était l'occasion.
Le confinement m'a permis de développer d'autres choses. J'avais envie de faire. Ça fait plus de 15 ans que je pratique le yoga. Je me suis dit pourquoi pas me certifier et puis amener ça, apporter ça en plus à mes élèves.
C'est complètement complémentaire.
Ça me permet encore. C'est vraiment mes élèves. Après, si les gens veulent se joindre, des nouveaux élèves que je ne connais pas en Zoom, pourquoi pas. Mais j'aime bien travailler avec les gens autour de moi quand même. Je rapporte.
Non, mais c'est bien, c'est un concept qu'on voit, enfin, j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler ces derniers temps. C'est tout ce qui est le gain de mobilité, etc., qui va avec. On entend vachement parler de musculation fonctionnelle et de mobilité en fait ces derniers temps, parce que c'est vrai que le côté où tu vois les powerlifters ou quoi, tu sais, qui sont super, moi j'ai un ami par exemple qui fait beaucoup de crossfit, alors lui il va être plus sur le lever de poids très lourd, c'est un grand gabarit, c'est un gars balèze, etc., c'est vraiment ça qu'il aime bien, mais mobilité zéro quoi. Il en fait très peu, et parce que c'est tout le monde a un peu de mal, tu sais, même moi le premier, hein, au début j'avais du mal à m'y mettre, même mes 20 minutes de yoga par jour, j'avoue, je saute le truc, parce que tu dis et en fait non, c'est hyper important, ça te facilite tellement la suite, et surtout ça t'est. Enfin, tu me diras si je me trompe, s'il y a d'autres bénéfices, mais aussi ça prévient les blessures. Parce qu'un faux mouvement, ça arrive tout le temps, et donc si t'as un petit peu de souplesse, tu vas mieux encaisser, entre guillemets, le faux mouvement.
Exactement. Le plus difficile en yoga, c'est de se poser sur le tapis. De s'asseoir, en fait, sur le tapis. Non, mais c'est la base de la mobilité. Vraiment. C'est la base. Donc, avant chaque session, préconiser de la mobilité, et ensuite partir sur son entraînement.
Alors justement l'entraînement. Donc on disait que t'es coach SGX. Alors est-ce que tu peux parler de ça? Donc c'est une formation spécifique que Spartan a fait pour la course à obstacles, c'est ça?
Exactement. Tout d'abord aux États-Unis, après ils ont amené ça en Europe. Les premiers certifiés en France en 2015, ils étaient 10 ou 11. Donc, maintenant on commence à augmenter parce qu'ils font la formation en français. Donc du coup ça aide pour certaines personnes. Moi je l'ai fait en anglais. Donc coach Spartan SGX et coach Spartan Group Training, le GX, pour ceux qui
ne savent
pas, voilà, simplement. C'est une formation qui dure 12 semaines, en tout cas moi j'ai formé sur 12 semaines, voilà, dans ce local on apprend toutes les bases et les piliers de Spartan, et on vous apprend en fait les phases d'entraînement sur les différentes phases qui existent sur un entraînement Spartan, vous serez tout dans les détails. En gros, il y a trois phases. La phase 1, on est sur du poids de corps, hein, pour les gens qui sont néophytes, qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui aiment faire l'entraînement Spartan. On est sur des mouvements fonctionnels, poids de corps. Puis, une phase 2, où on va rajouter des charges, hein, et augmenter un petit peu tout ça. Et pour moi, la phase 3 reste la préparation CrossFit, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de charge, et moi j'y rajouterais même la phase 4 aujourd'hui, et la phase 4 eh ben c'est la technique des obstacles, et moi j'ai cette
ça qui manque.
Phase numéro 4 sur le terrain spartan, parce que il y a que sur un terrain d'entraînement on peut vraiment travailler
c'est vrai, parce que moi j'ai commencé les Spartan Race, ça devait être en 2018, c'était le premier, c'était le Stade de France en 2018.
Okay.
Ça devait être en mars 2018, quelque chose comme ça, parce que moi je courais mais je m'ennuyais en fait en courant au début. Maintenant, je peux courir 2 heures et j'ai appris à m'occuper le cerveau, etc. C'est tout un chapitre en soi aussi. Mais au début, je me dis, courir juste pour courir, c'est pénible, machin. Bon. Et du coup, une fois dans l'avion, j'avais vu un documentaire sur les courses d'obstacles. Je me dis, c'est vachement bien, ça. C'est une excuse pour faire le con dans les arbres et grimper des trucs qu'on n'ose plus faire en tant qu'adulte. Tu sais que tu vois les enfants sur un terrain de jeu, ils s'éclatent, ils s'amusent et tout. Et en fait, c'est super bien, quoi. Et pourquoi pas nous? Et c'est super bien la boule, machin, etc. Et puis voilà. Du coup, j'ai commencé, mais c'est pareil. Donc, j'ai fait un peu de renforcement musculaire, un peu à l'arrache. Enfin, je sais pas trop quoi faire. Je débutais. Et effectivement, quand tu arrives sur la course, tu te dis, bon, ils te mettent quelques obstacles, un peu démo, là, dans la partie préparation et tout. Mais une fois que tu arrives sur le premier truc, tu te dis, comment je fais? Alors, tu regardes un peu les gens, comment ils font, tu peux t'aider, parce que, bon, tu fais ça en open, hein, bien sûr, quand tu commences. Et donc, tu vois les gens qui t'aident, etc. Alors, moi, il y a un mec qui m'expliquait comment retourner les pneus, c'était de bien prendre l'angle du pneu et de faire un beau deadlift. Mais voilà, des petits trucs comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, à chaque fois, maintenant que je fais une course, j'ai un petit peu appris chaque obstacle entre les courses précédentes. Là, il y a toujours des trucs où tu galères parce que tu n'as juste pas la possibilité quand tu dois faire le... rien que le monter à la corde, par exemple. Dans les salles de CrossFit, elles sont beaucoup plus épaisses.
Ouais.
J'ai remarqué que sur Spartan. Et donc, voilà. Et donc, du coup, t'as beau t'entraîner. Bon, tu peux apprendre la technique, que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Mais quand t'as une corde plus fine, c'est pas la même chose, quoi. Ou les monkey bars, ça, c'est plus facile sur les parcours de santé. T'en as un peu et tout. Mais t'as des obstacles très spécifiques, genre le Mont Olympe, là, tu sais, la petite plan, j'essaie de décrire pour les gens. C'est une plaque verticale avec un angle de peut-être 70 degrés, un triangle, voilà. Et il y a que des points d'appui pour les mains. On peut pas mettre les jambes sur des, enfin, il y a des petits repose-pieds, mais on n'a pas le droit de les toucher. Donc, faut se mettre, c'est que la poigne, en fait. Il faut réussir. Mmh. Évidemment, chaque, en plus, prise à une hauteur différente et une forme différente.
Il y a des chaînes,
il y a des poignées,
et des trous. Voilà.
C'est ça. Et donc, en plus, tu finis toujours par descendre de plus en plus parce qu'il faut apprendre à remonter et tout. Enfin, c'est assez marrant. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur Spartan, comme la plupart des cours d'obstacles, si tu ne passes pas l'obstacle, t'as une pénalité. Qui est 30 burpees chez ouais, c'est méchant, vaut mieux faire l'obstacle, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ouais, donc toi t'as Spart Camp, et donc moi c'est vrai que je cherchais en fait un endroit pour aller m'entraîner aux obstacles, etc. Alors je sais que Spartan, ils te proposent des fois de pouvoir aller la veille de l'événement, et ils peuvent te former sur place sur les obstacles. Ouais. Ça arrivait quelques fois, mais ça coûte genre quasiment 200€.
Ah oui, c'est le obstacle spécialiste. Alors je l'ai fait.
C'est pas donné, hein.
C'est
plus que commercial, ouais. C'est cupide, même, je dirais, à ce niveau.
Non, ça, c'est si tu as envie de devenir spécialiste d'obstacle, en fait.
Ouais, et en fait, ils font la même chose que toi, tu fais sur Spart Camp.
Exactement.
Alors, vas-y, parle-moi un peu de Spart Camp, parce que ça, c'est trop cool.
Donc, en fait, déjà, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit. Moi, j'ai renoué, avec la course, grâce à la course à obstacle. Parce que je ne courais plus vraiment, je faisais du bootcamp, voilà, très, mais je ne courais plus. Et grâce à ça, j'ai renoué avec la course à obstacles.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la course à obstacles, ça reste de la course. Alors, sur les petites distances, les sprints de 5 km, moi, je dis toujours, n'importe qui peut le faire, quel que soit son niveau physique. Tu peux le faire en marchant, si tu as envie. Ouais. Quand tu commences à taper les supers et les beasts, là, c'est avant tout de la course à pied, parce qu'un semi-marathon, et en général, ils rajoutent un peu quand même. Hein. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Moi, j'avais fait celui du circuit Paul Ricard, là. C'était donc un vrai... Castellet. Ma montre, elle m'a mesuré 25 km avec un bon dénivelé.
Attention, 5 km, ouais. 5 km. 10, c'est 10, 20, c'est
Ils sont stricts sur les...
C'est au niveau des règles.
D'accord. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Moi, j'aimais bien qu'il y ait un petit aléa. Tu sais pas exactement quelle durée, quelle distance ça fait, mais bon, ok, d'accord. Et les ultras, ils vont faire un marathon, du coup, pour les suites aussi. Ils vont faire juste le marathon.
Bien chose. Alors, juste pour différencier, Spartan et OCR. Parce que OCR, c'est notre discipline. Obstacle Course Racing. Spartan, ils ont leur championnat, ça, mais OCR aussi. Pour différencier une Spartan Race, pour moi, un bon Spartan est un bon trailer.
Pratiquant, donc. Oui.
Juste bien courir, un bon trailer, t'aimes le trail, mais tu seras un bon Spartan. Tu rates un obstacle, tu fais 30 burpees, et ensuite tu enchaînes. Moi, je l'ai très bien vu. Sur les dernières bises que j'ai fait à Morzine, j'ai vu les femmes qui avaient 45 ans, c'était des chamois.
Ouais, non, les petits cabris des montagnes.
Moi, je suis très explosive.
Ah oui, c'est ça, ouais.
5-10, j'envoie, je suis très explosive, j'ai la force, j'ai la caisse, mais dès que je pars sur un dénivelé, et c'est la fin du monde.
Ouais.
La fin du monde. Et là, les petits chamois, bah, elles étaient là, 45 ans, t'as un groupe d'âge, ok. Puis là, je voyais ma place qui reculait, j'étais 1, puis 3, puis 5, j'ai fini 8e. Parce qu'elles sont passées devant moi. Donc, c'est là où je reviens sur un bon Spartan et un bon trailer. Et du coup, effectivement, j'avais pas d'endroit. Il y a 3 ans d'arrière, j'étais avec mon ami, et je me dis, mais où est-ce qu'on peut s'entraîner? Il n'y a même pas une corde, mis à part au CrossFit, ou une palissade où on puisse tout simplement s'entraîner à la course obstacle. Et c'est là où on a eu cette opportunité, on nous a donné carte blanche pour monter Spark Camp, le premier terrain d'obstacle permanent de la Haute-Savoie.
Là, et même un des rares en France, j'ai l'impression, parce que je pense qu'il n'y en a pas tant que ça.
De plus en plus, quand même.
De plus en plus, d'accord.
Il n'y a pas 30 terrains non plus, mais on commence à être de plus en plus nombreux grâce aussi à OCR France, l'Union Française des Sports d'Obstacles, qui essaie de recruter un maximum de teams.
D'accord.
Donc, on commence à grandir.
Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'il faut un terrain, il faut des obstacles, il faut du financement. Comment vous avez réussi à monter ça? Ça n'a pas l'air facile.
On a mis 2 ans pour trouver un terrain.
D'accord.
Par chance, mon amie, qui est une enfant de Régnier, du village où, en fait, où se trouve le terrain, a rencontré cette famille de paysans, okay, qui sont très connus justement sur Régnier, qui sont les plus gros vendeurs de sapins de Régnier. Ils ont dit, écoute, Régnier, on te donne carte blanche sur ce terrain-là. On n'en fait rien, ça fait 35 ans qu'il est inutilisé. En plus, il est
magnifique
parce qu'il y a une grosse bâtisse très militaire. On a dit, les filles, on vous donne carte blanche. À côté, on a une rivière. Et on s'est dit, bon, comment on fait? Donc, 0 financement. Hein. On a tout fait ça avec notre huile de coude. Et on a déforesté une partie, en tout cas, du terrain. On est au moins à 1000 mètres carrés qu'on puisse vraiment utiliser sur les obstacles. Et puis, après, on a décidé de, avec mes entraînements, hein, que je faisais les week-ends, j'ai réussi un petit peu à financer, mais c'était par 100 euros, par 200 euros. On a acheté du bois. Ok, est-ce qu'on a assez d'argent? On a quand même payé une ou deux personnes pour nous aider à monter les obstacles. Parce que les dessins, je les ai faits.
Ah oui, d'accord, ok.
De chaque obstacle. En respectant les dimensions des obstacles Spartan.
Alors comment t'as fait? T'es allé à Spartan la nuit, tu mesurais les trucs ou ils te les ont donnés? Comment?
Très 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 fouillé. Moi, je suis très Google. Donc,
d'accord.
Aller aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui font leurs propres obstacles aux États-Unis.
D'accord. Donc t'avais toute une documentation en fait que t'as pu trouver en ligne sur ça.
Ouais. Chercher par exemple les dimensions exactes de l'Olympus, du Z-Wall, la distance officielle entre le javelot et puis la cible, voilà, plein de choses comme ça qui m'ont permis de dessiner et de fabriquer les obstacles. On a commencé par les obstacles obligatoires Spartan, et puis ça permettait moi ensuite de le communiquer, de marketer comme ça, vu que je suis coach Spartan.
Ah oui, parce qu'en plus c'est l'organisation la plus connue de courses d'obstacles, donc c'est sûr que c'est un peu ça entre guillemets qui vend, parce que tu dis bon, hein, t'as plus de chances que les gens, ça et Mudrun je pense c'est les deux plus connus
Mudday. Voilà. Donc du coup Spartan, les gens c'est Spartan, je sais pas pourquoi les gens c'est Spartan.
Ils sont bons, ils ont une très bonne communication, ils ont des bons, quand tu vas sur leur site, t'as des programmes d'entraînement, ils ont des vidéos, leur PDG, il est super charismatique, super badass, et tout, ils sont apparus, donc moi, personnellement, je les ai découverts dans un documentaire dont j'ai oublié le nom, mais ils étaient parmi 3 ou 4 autres organisations, je pense qu'à ça, et surtout, c'est hyper bien organisé, moi, j'ai fait quelques autres courses d'OCR par d'autres organisations, par exemple, il y en a une que j'ai fait, il y avait une erreur de balisage et la course de 10 km faisait 9. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai mis 1h20? C'est bizarre, j'aurais dû mettre plus quand même. Et il manquait 1 km. Ah merde. Et donc, moi, ça va, je m'en fous, je suis en open. Mais ceux qui étaient en championnat, je sais pas comment ça s'est passé. Donc ça, c'est un détail, c'est un petit bug, ça peut arriver.
Mais
voilà.
C'est là où tu vois la différence entre les franchises commerciales et les associations.
Voilà, un peu, ouais.
Voilà.
Ouais. C'est sûr. Après, c'est bien aussi, hein, chacun à son niveau, mais voilà. Et du coup, toi, tu prends d'organiser des petites courses où tu fais ça des fois sur ton terrain.
Qu'est-ce que vous proposez? J'aimerais tellement, tellement pouvoir le faire, mais bon, comme en ce moment on est dans la discussion, j'ai l'objectif prochain, dès qu'on sera déconfiné, qu'on pourra accueillir au moins 1000 personnes, eh bien, je suis en train de mettre en place avec la mairie de Régnier. La première course, la Spartan Run.
D'accord.
Pour Régnier. Donc ce sera, j'espère, cette année ou au pire le printemps prochain.
Et t'as en tête différentes distances,
il y aura la petit format 5 kills, hein, qui est vraiment adapté, très loisir, très famille. Mmh. Et puis il y aura au moins 10, voire 12 kills. 12 kills. Voilà. D'accord. Et peut-être un championnat. En tout cas, il y aura de la course élite, ça c'est sûr.
Ah ouais. Ah oui, parce que donc toi tu cours alors pas en élite il me semble, mais en âge groupe
en
âge groupe. Ouais. Ouais. Tu peux expliquer les différentes catégories.
Alors, dans un premier temps, quand tu découvres la course obstacle, tu peux courir en open. L'open, c'est clairement de la découverte. Ok. Tu cours en team, avec des amis ou seul. Et quand tu as des pénalités sur les obstacles, eh bien l'avantage c'est que tu peux partager ces pénalités. Par exemple, si tu as 30 burpees, eh bien, bah, vous pouvez faire 15 et 15, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avantage pour ceux qui ont peur de faire une course obstacle.
Et puis, tu peux aussi t'aider sur les obstacles.
Je peux vous aider, porter. Donc, j'ai beaucoup de mes élèves qui courent en open. Moi, souvent, je fais aussi des courses avec mes élèves et je cours avec eux. On est tous ensemble. On part ensemble, on arrive ensemble. Même si on met 5 heures à faire la course, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir cette cohésion de groupe, de passer du bon temps et de faire découvrir la discipline. Parce qu'au bout du compte, c'est ce qu'on cherche à faire découvrir la discipline aux gens. Spartan, en tout cas, c'est surtout pour ça.
Et un truc aussi que moi, je voulais noter, c'est que après l'avoir vécu, ma première, j'avais beaucoup d'angoisse avant la première course. Oui. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais y arriver? Machin. Et en fait, c'est beaucoup moins traumatisant et impressionnant quand tu le fais que quand tu le vois, en fait.
Oui.
Ça a l'air beaucoup plus difficile que ça ne l'est vraiment. Oui. En fait, moi, j'ai vu des gens vraiment pas en bonne condition physique, clairement obèses, hein, pour être clair, qui la faisaient et qui, tu voyais avec la pugnacité et la volonté qui passait des obstacles, qui se battaient contre eux-mêmes quasiment ou contre un truc. Ouais. Donc chacun les raisons pour le faire. Hein. Et donc ça, c'est pour dire aussi qu'il faut pas hésiter à se lancer. Comme tu dis, tu peux mettre 5 heures si tu veux, tu marches, tu t'aides. Y a pas de souci quoi. Pour l'open, c'est vachement bien. Et au contraire, ça donne le goût.
J'accompagne des gens de tout profil. Moyenne d'âge, quand j'accompagne les élèves, c'est une cinquantaine d'années, 50 ans. C'est magnifique. De voir des gens qui étaient 2 ans auparavant, c'est pas de sport du tout, et deux ans plus tard, ils font leur première Spartan Race. C'est incroyable.
C'est chouette. Donc ça, c'est pour la...
J'en ai des...
Ah ouais, bah c'est super, ouais. Donc ça, c'est pour la partie open, donc après, t'as les catégories d'âge.
Exactement. Ensuite, tu peux courir en compétitive, donc en groupe d'âge, premièrement. Donc le groupe d'âge, c'est donc tu fais ta course, tu dois passer obligatoirement les obstacles, tu as un essai, 30 burpees de pénalité, qui sont aujourd'hui même comptabilisés et filmés sur certains cours.
Ouais. Pour des questions de revisionnage ultérieur, parce que des fois il y a des contestations sur notamment.
Je vous conseille de faire 33 heures plus de 30.
Ouais. et donc attends, c'est catégorie d'âge parce que c'est par tranche d'âge aussi.
Ouais. Alors c'est la tranche d'âge est de 4 ans en général. Moi je suis dans la tranche d'âge des 40-44 par exemple. Contrairement en Auxerre, on est sur des grosses tranches d'âge de 9 ans. C'est pour ça qu'en Auxerre, je vais plus courir en élite.
C'est
10 ans de tranche d'âge, donc autant courir en élite.
Ah oui, si t'es en bas de la catégorie, forcément.
Exactement. Tu vois, donc là, c'est stratégique sur ta course.
Ouais.
Donc ça, c'est pour la partie âge groupe. Et tu peux faire des podiums. Voilà. Donc pour podium, tu seras classé 1, 2 ou 3 selon ton groupe d'âge. Tu peux avoir une belle médaille. J'ai fait une petite médaille d'or il y a 2 ans en arrière, un peu décontente.
Bon, une petite médaille d'or, tranquille.
Une médaille d'or de mon groupe d'âge. Pour mes 40 ans.
Ouais, en plus, voilà, pour tes 40 ans, c'est un bel anniversaire. Ouais, plus, et c'était là, sur quel...
C'était le week-end de mon anniversaire.
Ah bah voilà, bah super, bah, c'était dit quoi. C'était à sur quelle course?
C'était à Valmorel.
D'accord, donc c'était l'hiver en plus.
J'adore l'hiver. Je suis tellement à l'aise dans la neige. Pour moi, c'est mes courses préférées, c'est un terrain que j'aime. Je me sens à l'aise pour le terrain neigeux.
Ah ouais, moi j'aime bien quand il fait frais pour courir parce qu'on a clairement des meilleures performances. Ce matin, là, j'étais parti tôt, il faisait 2 degrés. Je faisais du fractionné et j'étais en pleine forme, c'était super bien. C'est vrai que c'est différent. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est ramper dans la... En fait, le problème, c'est que moi, j'ai des problèmes de peau, et dès qu'il fait un peu froid, ça me fait de l'eczéma, des trucs comme ça, et donc, j'ai une réticence, mais bon, je la passerai un jour.
Après, l'hiver, j'ai couru l'hiver.
Ah oui, je cours tout le temps, moi, de toute façon, qui pleut, qui vente.
C'est une course obstacle d'hiver.
Non, justement.
Vrai, vraiment.
Ouais.
C'est une autre course. Après, tu es équipé.
Oui, c'est ça qu'il faut. Ouais.
Donc non, c'est incroyable, il faut le faire.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il remplace le javelot par des boules de neige. Je trouvais ça super drôle. C'est encore plus difficile.
Hop, là.
Alors, tout le monde les prend les burpees, à part les pros qui s'entraînent. Et après, donc tu as ta petite médaille, bah bravo. Et après, donc tu as la catégorie élite, où là c'est encore... Et pour entrer en élite, il faut avoir fait un podium en âge groupe, c'est ça ou bien...
Non, maintenant non. Tu l'as tout dans ta course en élite, et là, c'est tout âge confondu. Voilà, tu as 20 ans ou 45 ans, tu seras classé avec tout le monde, ok, au scratch. Mmh. Tu seras classé comme ça. Après... le fait de courir en élite ou en âge groupe va t'amener à pouvoir te qualifier pour des championnats. Championnats d'Europe, championnats du monde. En général, pour l'élite, de mémoire, hein, le top 5, je crois, en élite, le top 10. Idem pour le age group, pour te qualifier au championnat d'Europe et un championnat du monde.
Je me posais la question de rentrer en âge groupe, parce que maintenant, quand j'arrive sur l'Open, le problème, c'est que je commence à trouver les joueurs un petit peu lents, ou surtout qui, en fait, le problème, c'est que t'as la queue aux obstacles.
C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui courent, en âge groupe parce que justement, ils en ont assez de faire la queue sur les obstacles. Donc, oui, c'est pas quelle heure. Tu verras.
Parce qu'ils densifient, et là je comprends, Spartan, ils veulent rentabiliser un petit peu la journée, ils te mettent des vagues toutes les 5 minutes, de gens qui ont différents niveaux, et c'est très bien, il y a pas de problème. Attention, hein, je veux pas les pointer du doigt, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu dis bon, ma course, en fait, un tiers du temps, je l'ai passé à attendre.
C'est que t'as pas fait un autre clap, Arnaud,
Je ferai ça après avoir fait une session d'entraînement sur les obstacles, parce que il y en a encore où clairement, je les passe à la force pure, mais du coup, je dépense beaucoup trop d'énergie par rapport, et je pense que si j'avais la bonne technique, ça passerait beaucoup plus fluide.
C'est avec plaisir, Arnaud, que tu viendras me rencontrer sur le terrain. Petite session et on travaillera la technique.
Je regardais sur le site ce que tu proposes. Il y a pas mal de choses. Donc moi je pensais venir. Ouais, c'est les week-ends, c'est ça que tu fais les coachs, les obstacles. Je vais essayer de voir si je peux venir cet été, si on peut voyager. Vous êtes ouvert tout l'été. Il y a pas de. Toute l'année même. Ouais. J'essaierai de venir. J'ai pris une petite semaine sans mon fils juste pour pouvoir faire ce genre de choses là. Quand on arrive sur Spartcamp, il y a j'imagine qu'il y a pas de logement intégré, mais donc il y a des logements à proximité. Tu
peux vraiment te loger autour à Annemasse.
Il y a tout ce qu'il faut. Ce que je me disais, ça serait bien que vous fassiez des petites espèces de baraquements très spartiates justement.
Alors,
tu mets rien, tu mets des douches froides, des lits, un peu comme un refuge en montagne, tu vois. Mais
idée. Déjà, tu le verras dans quelques temps. L'année dernière, je me suis acheté après nos parties aux Philippines avec Amy. On a dormi notre dernière semaine dans une tente glamping. Et je me suis dit, tiens, on va se mettre une petite tente au terrain.
Excuse-moi, c'est quoi une tente glamping?
Glamping, c'est un tipi. Comme un tipi.
D'accord.
Donc, on s'est fait une plateforme. On a posé, je me suis acheté une belle tente de 3 mètres de diamètre, et puis j'ai posé la tente. Et on a dormi, la plupart de l'été, dans cette fameuse tente. Ok? D'accord. Elle est toujours là, hein, la tente. Et puis bon, après, au mois d'août, elle serait un peu frileuse, donc on s'est dit, bon, alors, trop d'humidité, ok, très bien. Donc, du coup, on s'est acheté un camping-car. On a posé le camping-car maintenant au terrain. Très luxe, enfin petit camping-car rétro, et j'ai décidé cette année de louer la tente. Donc,
d'accord.
Sur la plateforme, au bord de la rivière, genre 25 euros la nuit, cheap, et tu te douches dans la rivière,
très bien.
Tu as fait croissant le matin.
Voilà. Ah, nickel, voilà.
Tu pourras venir dormir dans la tente.
Non, carrément. Je vais la réserver dès que je peux. Alors, du coup, vous faites d'autres trucs sur Spartan, parce que t'as parlé plusieurs fois des bootcamps. C'est quoi comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression que c'est des formats relativement courts, ou j'ai peut-être mal vu sur le site.
Alors, bootcamp. Donc, moi, je suis coach au bootcamp depuis 6 ans. Pour Genève. Donc, du coup, ça, c'était la base de mon métier de coach. À la base, c'était surtout bootcamp. C'était un bon concept qui était pris du Canada. Bien rodé, où je vends des vraiment
explique,
des bootcamps.
Explique un peu ce que c'est le bootcamp pour les gens qui connaîtraient pas.
Le bootcamp, c'est des entraînements de haute intensité, ok, très explosifs, qui sont un petit peu, ça veut dire, c'est des entraînements de paramilitaires, ok, qui ont été bien sûr réadaptés à la version européenne, qui est beaucoup moins. Moi, mon bootcamp, je suis pas comme si c'était aux États-Unis ou en Angleterre où je vais vous hurler dessus, vous insulter, quoi.
Ouais.
En Angleterre, c'est chaud, hein, le bootcamp dans les parcs. Hein.
C'est des vieux SAS qui font ça.
Du coup, donc, 45 minutes de haute intensité, travailles ton explosivité, renfo global. Je fais maintenant un peu plus de cross-training aussi, beaucoup plus de mobilité, de gymnastique. Ça, c'est des choses que j'ai appris avec le temps et j'aime bien intégrer dans mes bootcamps maintenant. Donc, je fais ça sur Genève dans les parcs, okay, le matin. Et quand on est sur le terrain, le bootcamp, il est un peu plus différent. Parce que là, j'ai tout à disposition. J'ai les palettes, j'ai les pneus. Donc, c'est un peu plus déjà, un peu plus militaire.
D'accord. Et ça dure combien de temps, une session bootcamp chez toi? 45 minutes, voilà. C'est ça, d'accord.
Là, l'idée, okay, c'est de travailler, tu sèches, tu te remets vraiment en condition avant de
c'est un peu comme une session de crossfit en extérieur, avec en même temps des obstacles potentiellement, des choses comme ça, quoi.
Ouais, beaucoup d'explosivité, beaucoup de courses, voilà.
Donc, c'est quoi les profils des gens qui viennent, qui sont intéressés par ça en général?
Aujourd'hui, j'ai tout type de profil. Beaucoup plus, moyenne d'âge 40, 45, 50 ans maintenant, de plus en plus. Beaucoup moins de jeunes. Les jeunes vont venir, au mois de mai, pour être bonasse l'été, quoi.
Le beach body.
Exactement.
Mais une session de 45 minutes, faudra en faire un peu plus qu'une, quoi.
Ça a été ma cible pendant longtemps. Quand je bookais ces gens sur Facebook, c'était 12 semaines de challenge, voilà.
Ouais, c'est ça. Ah oui, tu peux faire une session de 45, mais tu peux rester plusieurs jours, tu fais comment?
Ouais, c'est des challenges de 12 semaines, en fait.
Ah oui, d'accord, parce que moi, je te demandais combien. D'accord, mais c'est sur 12 semaines.
Ouais.
Okay.
12 semaines de challenge. Là, en fait, l'idée, c'est de retrouver un corps fit et en bonne santé en 3 mois. Ce qui est le minimum.
3 mois.
Le minimum. Pour retrouver, un semblant de corps fit, il faut minimum.
Ouais, de tonicité, bien sûr.
Bien sûr, tu accompagnes l'alimentation qui va avec.
Alors ça, c'est une question. Est-ce que tu couvres un peu ça aussi dans tes méthodes de coaching ou, ouais?
70%, enfin, 70% de l'objectif se trouve dans l'assiette, de toute manière.
Ouais.
Donc, tu peux faire tout le sport que tu veux. Si tu n'allies pas l'alimentation, tu n'auras pas les résultats.
C'est la base, là. C'est ça. Moi, j'ai des problèmes sur ça en ce moment, c'est que, j'aimerais bien descendre à 14% de taux de gras.
Ouais,
et j'arrive pas. Je stagne, je suis à 15,5, plus ou moins 0,2, et j'oscille et j'arrive pas à, alors si, j'ai trouvé une méthode très simple, c'est que là, je vais pas boire d'alcool du tout pendant un mois. Je pense que ça devrait, on va commencer. Voilà. Et c'est parce que c'est le seul truc que je prends. Moi, je prends des féculents que le midi. J'en prends pas le soir.
Oui.
Je pèse tous mes aliments. Tu sais, j'ai regardé mon seuil métabolique de base. Mmh. Et donc, 1860 calories par jour.
Oui. Tu utilises une application pour ça?
Ouais, je prends MyFitnessPal.
Très bien.
Ouais, il y a quelques trucs qui sont frustrants dedans. Parce que, par exemple, quand je cuisine pour ma compagne et moi, parce que c'est moi qui cuisine.
Ouais.
Avec plaisir. C'est que si je fais de la, bon, elle a mangé un peu moins puisque c'est une femme. Elle a besoin de moins de calories, d'autant plus légère. Si je fais un truc global dans le MyFitnessPal, en fait, ils prennent pas en compte que tu peux faire une recette pour deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il va te demander de peser ce que toi t'as mangé, mais moi je voudrais dire voilà tout ce que j'ai mis.
Ouais.
Et là-dessus, sur tout ça, sur les carottes, la salade, les pommes de terre, par exemple, j'ai pris sur les 400 grammes, j'en ai pris 250. Et comme ça, ils te mettent le truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu cuisines pour plusieurs.
Tu crées tes recettes.
Ouais, mais après, il te dit par portion. Enfin, le truc, c'est que moi, j'aurais des recettes temporaires, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
parce que j'ai pas, tu vois, c'est le seul petit truc qui me frustre. Voilà. Mais là, je chipote. Mais sinon, ouais, je prends ça. Et c'est vrai que ça marche bien parce qu'en fait, le problème, c'est pas, pour moi, c'était pas tellement, ce que je mange, parce que je mangeais toujours plutôt sain et des produits naturels et voilà, mais c'était les portions. Le problème, c'est toujours les portions. Et on se rend pas compte que je sais pas, 100 grammes de pâtes, le nombre de calories que ça fait, en fait. Et tu peux très vite exploser comme ça. Voilà. Donc, ouais, je prends l'application. Sans l'application, immédiatement, sinon je dérive et je mange trop. En plus, j'ai la mauvaise tendance à manger trop vite.
Donc, tu fais une choc sur les calories.
Non, ouais, moi, c'est sur le taux de gras, en fait, que je me focalise, en fait. Mais donc je sais pas comment continuer à faire ça, à part voilà.
Surtout quand tu utilises MyFitnessPal, hein, vraiment utiliser plutôt ton pourcentage dans les macros, rester dans ton pourcentage de macro plutôt que d'aller sur les calories, parce que les calories finalement ils arrondissent sur MyFitnessPal. J'avais lu ça récemment avec Feed by Chloé, qui est une Instagrammeuse qui utilise sur MyFitnessPal. Ils arrondissent les calories, donc du coup ça va plus, les calories sont plus élevées.
Que ce que tu vois, d'accord, ok, bon, super. Parce que du coup, tu recommandes quoi dans les macros, alors entre les protéines, les glucides et les lipides? Parce qu'eux, ils font un tiers, je crois.
Bah, ça dépend de ta morphologie, en fait.
Bah, c'est ça que j'arrive pas à déterminer. Moi, j'ai l'impression que Les glucides, dès que j'en mange, je les stocke quasi immédiatement. Je suis en déficit sur les glucides tous les jours, quasiment. Parce que sinon, je prends des poignées d'amour immédiatement si j'en prends midi et soir, quoi, tu vois. Et je prends pas des grosses portions. Hein. Je vais me faire 100 grammes de riz cuit. Enfin, une fois cuit, je le pèse, il fait 100 grammes, c'est le max que je vais manger. Un peu de fruits, mais pas non plus 500 par jour, tu vois. Et donc j'arrive pas à voir. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec une nutritionniste diététicienne spécialisée dans le sport,
ouais.
Spécialisée dans le sport, parce que moi j'aimerais bien comprendre quand je fais les règles normales, je prends du poids. Malgré ce que je fais, j'étais monté.
Cas par cas, après, voilà, il y a une question de génétique aussi. Voilà, donc du coup, c'est important que tu rencontres cette nutritionniste et qu'elle te fasse un bilan global par rapport à toi, à ta morphologie. Elle va te faire des calculs également et que tu puisses vraiment rester dans tes objectifs, en fait.
Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, j'avais lu que si tu perds 1% de masse graisseuse, tu économises 6% d'effort quand tu cours.
Très bien.
Imagine, c'est pour ça que je voudrais descendre à 14,5. En dessous, ça commence à être vraiment
athlétique. Aujourd'hui,
je sais plus, je l'ai pas en tête. Ben, j'ai perdu parce que j'ai dû faire 6 mois de pause de convalescence. Donc j'ai perdu un peu. Se dit ça remonte assez vite. Mais ouais, moi ce qui manque, c'est une petite salle de sport pour faire vraiment, tu sais, j'aime beaucoup la musculation fonctionnelle,
donc les kettlebells.
Ouais, j'ai la 16 en bas, mais pour tout ce qui est, c'est que ça c'est bien pour le conditioning et l'endurance musculaire, mais pour vraiment la force maximale, tu sais, j'aime bien quand même les back squats, les deadlifts, et ça j'ai pas la place chez moi pour en avoir, donc j'attends vraiment que les salles de sport ouvrent pour optimiser ça.
Elles ont enfin ouvert en Suisse.
Ouais.
Après, attention, Arnaud, tu pourras peut-être toi rejoindre une salle si tu as un certificat médical et que tu rentres dans des prérogatives pour respecter. Peut-être que tu rentres dans.
Ah ouais, bah, je crois que je demande à Charles parce que j'avais eu un.
Toi, tu pourrais, je pense. T'es en convalescence.
Ah ouais, d'accord.
Je pense que c'est même nécessaire pour toi, donc tu devrais vite te renseigner.
Ouais, faut voir parce que moi je veux pas être dans un. J'ai reçu un coach de CrossFit sur le podcast de ma boxe en fait, de mon ancienne boxe. Donc lui il appelle ça les globogym, tu sais, les trucs à accès limité, machin, ouais. Etc. Bon, moi je préfère maintenant les salles de CrossFit parce que t'as vraiment le coaching, c'est à côté, ouais. Qui te dit ton développé couché il est dégueulasse, change la position, etc. Tu vois, ça c'est le côté qui tu payes. Assez cher quand même pour ses conseils, mais si ça t'évite de te blesser, c'est quand même pas mal. Donc les globogym, je sais pas si sous condition tu peux y rentrer ou pas, mais les box, j'ai l'impression qu'elles sont toutes.
Moi personnellement, je vais m'entraîner dans ma box parce que je suis professionnelle, donc voilà. Et
d'accord.
Mon amie, elle a un certificat médical.
D'accord.
Je sais que j'ai des amis Spartan ambassadeurs qui sont sur Lyon et qui s'entraînent dans leur box de CrossFit.
D'accord. Bah je vais voir si je peux trouver ça. Ouais, bah j'ai rendez-vous chez un médecin demain en plus justement.
Pour les sensations là. Et que soit pas un certificat médical très
D'accord. Ah, c'est bon à savoir ça.
Ouais. Et on l'a appris, tu sais comment? Par un influenceur avec de la TV réalité comme ça, et puis que alors ça boxe de CrossFit. Plein confinement, mais tu sais pas quoi. Et il nous a pris ce tuyau en fait.
Ouais, j'en avais vu des gens comme ça, ouais. Parce que en plus bon, je vais pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que quand t'es un peu en forme, etc. Moi personnellement, je t'avoue que la Covid, je m'en soucie pas trop. Je suis blindé de vitamine D. On sait que c'est ça le meilleur défense du système immunitaire. On passe ton temps à courir dehors, donc tu te reprends plein de vitamine D et tout. Je suis à peu près sûr de l'avoir eu en février 2020, parce que je revenais d'un déplacement aux US où j'avais rencontré tous mes cousins, tous mes collègues chinois. dont beaucoup venaient de la zone d'où ça venait. Donc forcément, dans le tas, il y en avait un qui devait l'avoir c'est comme ça, c'est normal. Et j'avais fait parce que moi, je voyage beaucoup international, donc les grands aéroports, enfin voilà, tout ce qui passe, je me le prends, quoi. Donc, je m'en fais pas trop.
Tu as senti les symptômes ou
J'ai senti les symptômes parce que je commençais à courir, mes perfs étaient dégueulasses alors qu'il y avait aucune raison. Je me sentais un peu essoufflé, c'est vrai, un peu c'est-à-dire que je devais être en zone 2 pour ma course et j'avais mon rythme habituel, tu connais ton corps au bout d'un moment, donc tu dis bon là c'est mon rythme de zone 2, je sais. Et tu dis putain, mais pourquoi je passe en zone 3, 3 et demi, quasiment 4, et je sentais que j'étais pas en forme, quoi, tu vois. Et déjà quand je m'étais réveillé un peu des mini courbatures, mais tu sais, pas normal, quoi, pas des courbatures que t'as quand tu muscles. J'ai dit bon, voilà. Et puis en fait, après, perte de dorat, perte de goût.
Ah, donc,
enfin, sur les 9 symptômes. Sur les 9 symptômes, j'en avais 6, tu vois.
Ouais.
Mais j'étais pas au top pendant une journée, deux journées. Le goût, il est revenu une semaine après. Et voilà. Alors que ma compagne, elle allait rester, elle était malade 3 jours au lit, quoi. Et c'est arrivé, une semaine après moi, quoi. Donc, j'ai dû lui filer une semaine.
J'ai eu aussi. Simplement, moi, j'ai pas du tout senti mon ami.
Ouais.
2 semaines. Merde.
K.O. Ouais, c'est ça dépend vraiment.
Incroyable.
Ouais. C'est ça qui est bizarre avec cette maladie. C'est que ça dépend vraiment des gens. Moi, ma belle-mère l'a attrapé à son travail. Mm-hmm. Mon demi-frère l'a attrapé aussi. Et mon père, qui habite avec eux, ne l'a même pas attrapé.
Ah ouais.
Et par contre, les trois, enfin, du coup, les deux qu'il avait, zéro symptôme, rien du tout, mais bon, ils étaient du coup en quarantaine, etc., pendant 2 semaines. Donc, ça qui est bizarre, c'est que tu dis, ouais, je comprends qu'il fallait confiner, parce que le problème, c'est que après, toi-même, si t'es pas affecté, tu peux contaminer d'autres gens qui eux-mêmes sont potentiellement, des personnes sensibles qui peuvent finir aux urgences, et ça, c'est important. Mais moi, je me dis, pourquoi confiner tout le monde et pas tous les gens, pas simplement les gens à risque, en fait, ou qui veulent pas prendre le risque, tu vois. C'est ça, mais bon, je te dis, je vais pas rentrer dans le débat.
Moi, c'est dur ce que je veux dire, mais il faut laisser vivre les gens, et il faut laisser mourir les gens.
Un petit peu. Ma mère, c'est ce qu'elle dit aussi.
La loi du monde.
Ma mère a dit ça, elle me dit, ouais, mais bon, c'est bon, moi, je me sens. Ma mère a dit, j'ai 67 ans, bon, bah voilà, si ça va passer, ça passe, c'est comme ça, c'est dans l'air de l'été. Bon, ma mère est très cynique et très logique comme ça, mais bon. Évidemment, quand t'es quelqu'un de politique, un élu, tu peux pas te permettre de dire ce genre de choses non plus. C'est vrai que. Enfin, voilà. Mais du coup, ouais, je vais regarder pour cette histoire de certificat médical pour avoir accès, parce que j'ai vu sur Instagram justement CrossFit France qui postait dans ce sens-là pour dire ouais, mais c'est essentiel en fait à la bonne vie, parce qu'on parle toujours de confinez-vous, mais pas tellement de qu'est-ce qu'on peut faire.
Oui.
Pour se prémunir et améliorer le système immunitaire. Bah, du sport, déjà, c'est un bon début. Plutôt que de laisser tout le monde chez eux sur leur ordinateur H24 à travailler et à regarder Netflix, à un moment. Ouais, et puis surtout, ça aide pas le système immunitaire. Moi, j'ai jamais vu dans les médias, je regarde très peu les médias, mais j'ai jamais vu dans la communication gouvernementale des choses dire. Améliorer vos défenses immunitaires, prenez de la vitamine D, faites un peu d'exercice, mangez sainement au lieu d'attendre votre vaccin entre deux McDo, quoi, tu vois. Et c'est ça aussi le monde, parce qu'on veut tous un vaccin, une solution facile, mais ok, mais la meilleure façon de survivre à ça, c'est de pas être malade, quoi.
Je vais être obligé, je veux pas me faire vacciner, mais je vais être obligé si je veux voyager.
Ouais, ben moi c'est pareil, moi je m'en fous,
ça en fait, je vais être pieds poings liés, pas le choix.
Tu crains les vaccins ou c'est juste que t'as pas envie d'être vacciné en général?
Non, je crains pas les vaccins, j'ai juste pas envie d'être vacciné.
Ouais, moi je vais le faire parce que pareil pour pouvoir voyager, parce que
quand c'est obligé, c'est pas sur mon passeport, j'aurai pas le choix si je peux passer à côté.
Moi je voudrais c'est le Pfizer là, celui qui est basé sur l'ARN, c'est juste élégant d'un point de vue technologique.
Mm-hmm.
Ou ils te mettent pas une version affaiblie du virus, ils te mettent juste les protéines qui vont faire réagir ton corps pour développer, pour te défendre contre les mêmes. Ouais, c'est vachement. Il y a une vidéo sympa sur Sci-Fi, si tu regardes sur YouTube, Sci-Fi News, Sci-Fi Channel, ils ont une très bonne vidéo là-dessus qui explique bien. Ils t'expliquent en fait qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est un nouveau type de vaccin. C'est un nouveau type de vaccin. En production, mais en fait ça fait plus de 50 ans que la recherche travaille dessus, c'est juste que là c'est l'occasion de booster
et
de
maladies aussi.
En plus, ouais, bien sûr, et surtout c'est juste bien de pas te mettre directement le virus inerte ou même affaibli, c'est quand même apparemment du coup ça marche un tout petit peu moins bien, mais c'est comme ça, quoi. Et alors je voulais juste finir parce que je dois te libérer parce que comme je disais, t'as vu, ça passe vite. C'était donc t'as publié récemment un programme d'entraînement spécifique de renforcement pour les gens qui font la course d'obstacles. Tu peux nous faire ça en 2 minutes, après je te libère.
Exactement. Donc j'ai eu envie en fait de d'aider en tout cas ma communauté, déjà j'ai quand même bien accès au CR, d'aider ma communauté à s'entraîner, bon, même depuis la maison, depuis un espace jardin d'enfants ou autre, avec le moins de matériel possible, puisse se remettre en forme en travaillant les différents blocs, différentes parties du corps, qu'ils puissent se préparer aux futures courses à obstacles. Donc, il y a en fait différents blocs, un bloc bas du corps, un bloc haut du corps, un bloc abs, également un bloc surtout axé sur le grip. Et ça, c'est le problème de 80%
dont je fais partie.
Voilà. Ouais. Le grip, la force dans le bout des doigts, le
la poigne,
le bout des doigts. En plus, on osserre du coup le bout des doigts, mais beaucoup en suspension. En Spartan, c'est plus sur le grip de la poigne.
L'appréhension, ouais.
L'appréhension, savoir comment balancer, comment faire son swing, et donc ça, c'est important. Donc du coup, ce bloc, ce dernier bloc est très important. Il y a beaucoup de gens qui vont aller juste au dernier bloc, mais du coup, ça vous permet de progresser et ensuite d'appréhender un peu plus, surtout les derniers obstacles en Spartan, là, la multirig. Avant le feu, celle-ci, elle est redoutée.
C'est toujours épique, ouais.
Il est entièrement gravé dans le programme.
Ouais, c'est ça. Donc il est. Je mettrai en lien hein, dans les notes tous les liens vers ta chaîne YouTube, enfin votre chaîne YouTube, Instagram et ainsi de suite. Et du coup, ton programme c'est sur 3 jours par semaine, c'est ça?
Alors, c'est un programme de 9 semaines.
9 semaines, ouais.
2 entraînements par semaine.
Okay.
On aurait pu faire 3 fois par semaine, mais le problème,
c'est bien.
Que les gens n'ont pas le temps. Mais moi, 3 fois par semaine, j'essaie de m'accrocher à mes 3 entraînements par semaine. Mais 2 fois, c'est bien. Ça permet de bien caler 2 entraînements dans la semaine, en tout cas bien cet entraînement bien spécifique. Voilà. Et le reste, c'est du run, du renfo, de la mobilité, du yoga. Comme ça, ils vont pouvoir faire leurs autres occupations.
Dans chaque session d'entraînement, tu fais tes 3 blocs ou tes 4 blocs?
Les 4 blocs. Il faut
d'accord, donc c'est full body workout, comme on dit à chaque
fois. Full body workout, il faut prévoir une bonne heure et quart, 20.
D'accord. Alors,
on peut complètement l'adapter. J'ai dû vraiment m'adapter aux hommes. OK? On est sur du haut du corps, peut-être que les femmes, on ne peut pas enchaîner 20 push-ups, 3 rounds, voilà. Du coup, il faut vraiment l'adapter selon votre condition physique. Avec ou sans charge, c'est pour ça que j'ai à ma disposition mes conseils. N'hésitez pas à me contacter avant le début de l'entraînement.
Elles sont bien faites tes vidéos, si je peux me permettre. J'ai bien aimé, c'est que pour chaque, quand tu montes par exemple faire les tractions, on voit toutes les trois en fait sur le même sur la même vidéo, la même vignette. Tu vois la version normale, la version adaptée. La version et ça c'était bien parce que du coup tu vois bien tout de suite les différentes. Moi je sais pas pourquoi les tractions j'arrive pas, c'est un truc. Dès que je le fais, même si je veux fort, j'arrive en fait, je me bloque le dos. J'ai un problème peut-être de mobilité ou de je sais pas quoi. Faut que je revoie parce que là je le refais là, j'ai recommencé.
Du coup, je conseille quand même l'élastique, c'est la facilité.
Ouais.
Mais je te conseille de travailler en isométrie. Tu vas progresser beaucoup plus vite en isométrie. Donc en te bloquant ici au niveau de la barre, au niveau de la barre, tu restes 2 secondes. Tu utilises une box, tout ça.
D'accord.
Mais si le menton au niveau de la barre et tu descends en 3 ou 5 temps, 1, 2, 3.
D'accord, ouais. Donc tu fais juste la partie retour, pas la partie aller.
Exact.
Pour la partie aller, tu montes et après. Ça, c'est mieux.
Ouais, tu progresseras beaucoup plus vite. Moi, j'en suis la preuve. J'ai réussi à me faire mes premiers pull-ups en keeping en plus au bout de 6 mois avec l'élastique et mon ami. Qui ne faisait pas de sport et de crossfit, en 3 mois, elle arrivait à maîtriser ses pull-ups.
Avec ça, d'accord. Okay.
Ouais,
donc c'est mieux que la bande. Ok, Et on peut le trouver où ce programme parce que j'avais vu un petit peu des exemples sur ta page Instagram, mais quand j'étais sur ton site, j'ai pas trouvé. Moi, je m'attendais un peu à voir ce programme sur 9 semaines, machin, tout ça, un truc un peu formel. Je l'ai pas vu.
Non, parce que je le poste avec parcimonie.
D'accord.
Là, le day 5, le jour numéro 5, sera posté demain.
D'accord.
Et le day 6, le jour 6, jeudi.
Donc, tu vas faire ça jusqu'à la fin des 9 semaines.
Exactement.
Donc, ça va te faire 18 jours, du coup.
18 jours.
Ouais. 18 jours, ouais. Si je peux me permettre, je pense que ça serait bien d'avoir un récap à la fin, un truc un peu formel, parce que tu sais, quand on aime bien, tu sais, avoir le programme, voir ce que ça va être.
D'accord. À la fin de chaque vidéo.
J'ai peut-être pas vu jusqu'au bout.
Je précise. Apprenez à lire les publications.
C'est vrai. Mais quand c'est une vidéo.
Parce que c'est que 3 minutes de votre temps. Et je sais que les gens prennent pas 3 minutes, c'est 30 secondes.
Non, ouais.
D'accord. Ouais, c'est clair. Qui le suit,
je pense que sur YouTube, on a plus tendance à lire Instagram, parce que c'est normalement, tu postes la vidéo, un petit Instagram. Commentaire et tout. C'est vrai.
Ça porte bien son nom. Donc, du coup, à la fin de chaque vidéo, tu as le récap de tout le road.
D'accord.
D'accord. Tu peux même switcher d'un bloc à l'autre
j'avais vu ça. Ouais.
Voilà. Et tu peux aller directement, au récap, en fait, du road. Tu fais un print screen avec ton téléphone. Easy. Voilà.
Je dirais que ça serait quand même bien quand t'as fini d'avoir un petit PDF pour montrer le truc, parce que c'est pour structurer, voir un peu à l'avance. Même des fois, tu sais, quand tu compares différents programmes, tu peux te dire tiens, celui-là il me plaît bien, celui-là il me plaît moins. Ça peut être
ok. Après, je le baisse également sur YouTube. Là, je le poste pas, mais après je vais le mettre sur mon site internet déjà sur Spartan. Les gens pourront accéder facilement et je le fais tout sur PDF.
Ouais. Voilà. Non, mais c'est super que tu fasses tout ça gratuitement.
Parce
que...
Je fais tout moi-même. Hein.
Ouais, non, mais c'est bien sûr, et c'est super bien fait. Ouais, non, mais ça se sent, c'est très communicatif. Moi, je recommande à tout le monde de suivre ta page Instagram, parce que t'es toujours souriante. Enfin, évidemment, sur Instagram, on pose pas les trucs, on fait la gueule en général. Comment?
I'm not fake.
Non, mais c'est ça se voit que t'es à la pêche et que c'est communicatif et ça juste donne envie de faire du sport, quoi. Donc c'est super chouette. Bon, allez, on a dépassé un petit peu. Tu m'avais demandé de te libérer pour ton cours. Merci encore d'être passé. Tu peux rappeler rapidement peut-être où on peut te trouver sur les réseaux sociaux, les différentes adresses, même si je le mettrai quand même dans les notes.
Sur Insta, donc c'est Aurore_coachSGX. Facile. L'Instagram de Spartcamp, donc c'est juste @Spartcamp, tout simplement. Et puis, Facebook, c'est la même chose, Spartcamp et Aurore Coach SGX. Et le site internet spartcamp.com, si vous voulez faire découvrir la discipline, faire du loisir, entièrement de vie de jeune fille, la totale, pendant 2 heures.
Ou de garçon.
J'accompagne, entièrement de vie de garçon, surtout, mais c'est plutôt beaucoup ça. Ils aiment bien avoir le colonel Aurore avec eux. Pendant 2 heures, je vous accompagne sur tout le parcours du combattant, en mode fun, bien sûr. Et venez passer du bon temps sur le terrain, quoi.
Super. Le rendez-vous est pris. Moi, de toute façon, c'est sûr, je vais venir dès qu'on peut aller en Haute-Savoie. Voilà, super. Merci. Merci pour tous tes conseils. Et puis, on attend la suite de ton programme, jour par jour, alors.
Allez.
Bonne journée. Bye.